Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Toi, c'est Queen Camille, bienvenue dans Coucou le cul, le nouveau podcast sexo de Mademoiselle, animé par Queen Camille et Dr Berlingo. Ici présente notre gynécologue de luxe, bonjour Laura.
Bonjour Queen Camille.
Il faut dire que tu t'appelles vraiment Dr Berlingo.
Je m'appelle vraiment Dr Berlingo.
Ah, les beaux hasards de la vie. Ici, vous l'avez compris, nous allons parler de bites, de chats, de cul, voilà, tout ce qui s'ensuit. Laura, tu es donc gynécologue. Pourquoi as-tu accepté mon invitation à faire ce podcast sexo?
Pourquoi le faire? Parce que j'aime beaucoup parler de cul, je pense que c'est quelque chose de très important dans la vie. Et plus sérieusement, je trouve qu'on a beaucoup de discours un peu préformés, préfabriqués, traditionnels sur le sexe. Et voilà, connaissant votre vision à Mademoiselle et particulièrement de toi, on va dire un peu plus féministe, un petit peu plus inclusive, un peu plus ouverte sur la sexualité, ça me paraissait vachement important de parler de sexe avec vous ici, sans tabou et sans préjugés.
Trop bien, eh ben, je suis ravie de t'avoir à mes côtés, puisque contrairement à moi, tu as des connaissances scientifiques, donc nous allons pouvoir ne pas raconter de bêtises.
Nous allons essayer.
Pourquoi ce podcast sexe aussi? Parce que c'est pas facile d'en parler autour de soi quand on se pose des questions. On sait pas toujours à qui s'adresser, et eh bien nous sommes là pour ça.
Le principe est simple.
Oui, vous nous appelez, vous nous posez votre question, une question sur le sexe qui vous turlupine la pine, et le docteur Berlingo et moi-même tenterons d'y répondre avec entrain et précision, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Je vous propose donc d'ouvrir ce premier podcast, cette première émission, avec une première question. Nous avons Ella au téléphone. Bonjour Ella.
Bonjour Camille.
Tu as quel âge Ella? Tu nous appelles d'où?
Alors, j'ai seulement 14 ans et j'appelle vers le sud-ouest de la France.
D'accord. Et tu avais une question qui concerne la première fois.
Oui, pourquoi on met un âge minimum à une première fois?
Y a-t-il un âge minimum?
C'est quoi pour toi l'âge minimum qu'on met à une première fois?
Quand on est dans la société, ça serait à peu près de la majorité, vers les 18 ans. Je dirais plus les moins de 16 ans, ça dérange à peu près tout le monde.
D'accord. Alors déjà, je ne sais pas, Camille, ce que tu en penses, mais je pense que ce serait bien de parler un petit peu de ce que c'est la première fois.
Mm-hmm.
Parce que pour toi, c'est quoi la première fois? C'est une pénétration?
Non, la première fois, ça peut être sans pénétration, parce que en soi, s'il y a pénétration, ça veut dire que les couples homo-lesbiens, c'est-à-dire qu'elles n'auront jamais de première fois. Donc non, la première fois, c'est faire la première fois quelque chose de sexuel, même sans pénétration.
Nos auditrices sont si ouvertes d'esprit et si informées.
Ouais, c'est vraiment super de dire ça à 14 ans, hein. Je suis assez impressionnée.
C'est vrai que c'est bien de le préciser, la première fois, c'est pas forcément la première fois qu'un pénis rentre dans le vagin. C'est une vision assez hétérocentrée des choses, n'est-ce pas?
Il y a plein de premières fois. Il y a une vie sexuelle qui est parfois longue et parfois courte avant cette première fois-là de la pénétration. Effectivement, quand tu dis dans la société, on dit que c'est à peu près 18 ans, en fait, c'est drôle parce que il y a eu des études là-dessus et en 2010, l'âge médian du premier rapport sexuel, c'était 17,4 ans chez les garçons et 17,6 ans chez les filles. Et en fait, c'était, on parlait pour le coup de pénétration d'un pénis dans un vagin. Et donc, quand on dit âge médian, c'est-à-dire que la moitié des personnes l'ont fait avant 17 ans.
Et la moitié ne l'a pas fait.
La moitié ne l'a pas fait et le fera peut-être bien plus tard.
Donc, c'est pas une norme en tout cas. Peut-être d'un point de vue légal, c'est sûr que là, on va trouver des limites.
Après, c'est sûr que... aussi, j'ai vu que maintenant, un rapport sexuel avec mineurs, c'est plus un crime.
C'est pas tout à fait ça. Effectivement, on a pas mal parlé ces derniers temps du consentement sexuel en France par rapport aux histoires qu'il y avait eu de est-ce qu'on peut dire que c'est un viol, pas un viol. Il y a eu beaucoup de débats législatifs autour de ça. Je pense que c'est pas tellement le sujet de ta question. En gros, je pense que ce dont il faut se souvenir à propos de ça, c'est que globalement, un majeur de 18 ans ne devrait pas avoir de rapport avec un mineur de moins de 15 ans. C'est la limite qui a été donnée en France. Il faut savoir que cette limite, elle est différente dans tous les pays d'Europe. En Espagne, par exemple, c'est 12 ans. Hein, donc, il n'y a pas vraiment de normes. Mais en France, on a dit 15 ans parce qu'il fallait bien mettre une limite. Mais ça ne concerne pas du tout des gens qui seraient tous les deux mineurs. C'est-à-dire que deux personnes de moins de 14 ans peuvent avoir des rapports sexuels ensemble dans la limite du consentement, évidemment, si les deux sont, voilà, sont d'accord et ont envie de le faire. Il n'y a pas de limite légale sur l'âge du premier rapport sexuel. Je pense que d'un point de vue médical, si on peut dire, il n'y a pas d'âge minimum. Évidemment, il y a tout un spectre entre l'enfance et l'adolescence et l'âge adulte. On passe de l'un à l'autre, mais on n'y passe pas avec des espèces de seuils où on pourrait dire on est enfant jusqu'à 10 ans, on est ado jusqu'à 16 ans, et puis on est adulte à partir de 16 ans ou je ne sais quoi. On sait très bien que selon les sociétés, c'est très différent, les âges sont très différents. Je pense que l'âge du premier rapport sexuel, il dépend avant tout de sa propre maturité physique et psychique. C'est sûr qu'il y a, pour un enfant, enfin, je pourrais pas dire que 8 ans, c'est un bon âge pour avoir un rapport sexuel. Effectivement, tu n'as pas du tout la maturité physique et psychique pour avoir des rapports. Mais après, cette maturité-là, elle est différente chez tout le monde. Et il y a des filles comme des garçons qui l'auront à 12 ans, il y en a d'autres qui l'auront à 16 ans, il y en a d'autres qui l'auront à 20 ans. Et je pense que ce qui doit être le moteur premier, c'est vraiment le désir. C'est d'avoir envie de le faire et de se sentir assez à l'aise avec quelqu'un pour le faire.
Après, c'est vrai que dans la bouche des parents, c'est peut-être de là que te vient cette idée aussi. C'est souvent le plus tard sera le mieux.
Oui, voilà. Ouais. Mais oui, c'est sûr qu'il faut déjà avoir la maturité et être conscient de ce que c'est.
Et toi, est-ce que c'est une question que tu te poses personnellement? Est-ce que toi, tu te demandes si c'est le bon moment pour toi?
Non, pour moi, j'ai toujours pensé, depuis toute petite, que ça se fera quand ça se fera. Tant que c'est consentant, que les deux personnes sont prêtes et qu'on est à l'aise et qu'il y a une confiance, pour moi, il n'y a pas vraiment de réel âge.
Moi, je pensais là que tu peux directement venir avec nous animer ce podcast. Hein.
Moi, je pense qu'effectivement, il faut surtout se faire confiance, savoir s'écouter et pas culpabiliser de le faire trop tôt ou trop tard. Parce que ta question, là, c'est sur le trop tôt. Mais il y a aussi des gens qui se posent la question du trop tard et qui se disent « Ah, mais j'ai 18 ans et j'ai toujours pas couché, c'est terrible. »
Toujours vierge, souvent, on m'envoie dans les questions. Ouais. Oui, tu es juste vierge, en fait.
En fait, non, c'est pas terrible, c'est pas grave, c'est pas une maladie, il n'y a pas de normes, il n'y a pas un âge auquel il faut le faire et pas le faire. Et cet âge de 17 ans, encore une fois, c'est un âge médian, la moitié des gens avant, la moitié des gens après. Ça veut dire qu'il y a tout qui est possible je pense qu'il faut surtout s'écouter soi-même, écouter ses propres envies.
Tout à fait, ça me paraît une bonne idée.
Bon, je vais faire mon petit point gynéco. Par contre, la première fois, ne pas oublier la contraception et le préservatif. Parce qu'on est 14, 15, 16 ou 20 ans, les IST, ça existe. On tombe enceinte, aussi. Surtout quand on est jeune. Parce que quand on est jeune, on a des ovaires qui marchent très, très bien. Mieux qu'à 35 ou 40 ans. Voilà, faut pas hésiter à en parler avec des personnes qui sont qualifiées pour le faire. Ça peut être au planning familial, ça peut être au lycée, au collège. Il y a des infirmières qui sont là pour ça. Un médecin généraliste, une sage-femme, un gynéco. Vous pouvez prendre rendez-vous. Il n'y a pas d'âge minimum pour prendre rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous toute seule. Vous n'avez pas besoin d'aller avec vos parents ou avec être accompagné de je ne sais qui. Hein. On peut prendre un rendez-vous en étant mineur. Et voilà, je pense que c'est bien de pouvoir en parler parce qu'on peut aussi répondre à d'autres questions plus générales telles que celles que tu viens de poser. On ne s'arrête pas forcément à la prescription de la pilule. On peut parler de tout ça aussi.
Est-ce que ça répond à ta question, Ella ?
Oui, ça répond à ma question. Et aussi, je voudrais aborder le sujet parce que ça aussi, plutôt cet âge minimum ou maximum. En fait, l'âge minimum est plus pour les filles. Toujours cette idée de slut shaming, parce que je peux voir que même que ça soit vrai ou faux, dans mon collège, il y a plein de rumeurs qu'une fille a couché avec machin en bois. Et quand c'est un garçon, tout le monde s'en fout. C'est toujours cette idée que la femme doit être pure, qu'elle ne doit pas faire de choses.
Comment toi tu réagis quand t'es témoin de ce genre de slut-shaming?
Personnellement, j'en ai été victime. J'ai jamais rien fait, mais comme je suis quelqu'un d'assez ouvert, ça dérange pas mal de personnes. Ou autrement, quand je vois, par exemple, il y a une fille, elle avait envoyé une photo à un garçon qui l'a fait tourner dans tout le collège, et moi, je l'ai défendu, même si je la connaissais pas, parce que tout le monde a inventé son histoire, alors que la vérité, c'est qu'elle a envoyé et que le garçon l'avait partagé.
Je pense que c'est très important ce que tu dis, hein, qu'il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître là-dedans, qui l'ont expérimenté. Et ce que tu décris, ça se voit à tous les niveaux. Hein. Il y a, on est pareil, pour le coup, 30 ans ou 40 ans, c'est toujours mieux vu d'avoir de multiples rapports sexuels quand t'es un homme que quand t'es une femme. Mais peut-être le plus âgé, on est plus paré à ça et plus prêt à y répondre. Et qu'à 13, 14 ou 15 ans, au collège, au lycée, ça peut faire beaucoup de mal de subir ça. Et donc, j'ai pas de solution miracle à proposer, mais c'est important d'en parler. Et je trouve ça juste top que tu aies pris la défense de cette fille que tu connaissais pas. Vraiment, c'est super. Et c'est grâce à des prises de conscience comme ça, c'est grâce à des choses qui sont dites comme ça. Et plus les gens en prennent conscience, et plus ils peuvent défendre les autres, moins je pense que cette idée sera présente dans la population.
Est-ce qu'il y a eu des réactions dans ton collège, de la part des profs, de la CPE?
Non, j'ai remarqué que dans les collèges, tout le monde était au courant, les adultes, tout le monde en parlait, mais ils faisaient comme si rien se passait. Ça a été la déléguée de la classe de cette fille qui a dû en parler, et voilà, et ça s'est calmé. Mais autrement, tout le monde en parlait, et même les surveillants, ils sont très proches des élèves et entendaient, mais ils n'ont jamais réagi.
Ouais. Il lui est rien arrivé donc à ce garçon qui a fait tourner la photo.
Rien arrivé. J'ai remarqué que je sais pas vraiment le nom du garçon, mais même dans d'autres cas, il était limite félicité. Quoi. Ouais, il arrivait à avoir une photo nue, il arrivait à coucher avec cette fille, et la fille c'est tout le contraire, on l'a dénigré. C'est toujours se sexiser.
En tout cas, petit point revenge porn, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Si vous envoyez des nudes à un copain, si vous envoyez des photos de vous dénudés ou nus, ça peut être pas mal de, par exemple, ne pas montrer votre visage, car on ne sait jamais à quelle fin ce contenu peut ensuite être utilisé.
Malheureusement, ouais. Après, c'est vrai que c'est pas votre faute non plus. Si jamais quelqu'un se retrouve en possession d'une photo à vous qui tourne comme ça, c'est pas plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment essayer de ne pas culpabiliser, et c'est pas la fin de votre vie, ça va être un moment qui va être difficile, mais c'est pas la fin de votre vie. Mm-hmm. Et ces gens, ils doivent être punis, il faut pas hésiter effectivement à en parler autour de vous, en parler aux adultes, et faire comme tu fais toi, leur dire mais non, c'est pas normal, et cette personne-là doit pas rester impunie.
C'est ça le pire, parce que t'as une personne qui donne, qui a une énorme confiance envers la personne et la détruire, et puis après aussi, si tu as cette idée de revenge porn, on peut porter plainte. Même si j'ai entendu des témoignages que parfois certains policiers ou gendarmeries ne trouvent pas ça assez grave pour qu'il y ait une suite pour un procès ou autre.
Ce truc qui est minimisé par les policiers, voire même les médecins, enfin, parce qu'il y a eu aussi des plaintes pour viol qui avaient été minimisées par des médecins, etc. C'est vrai, ça existe depuis toujours. Moi, j'avais vu une vidéo des années 80 où le policier disait à une femme qui venait de se faire violer, ah, mais à cause de vous, ben voilà, cet homme, il passe sa soirée au poste alors qu'il pourrait être tranquillement chez lui avec sa femme et ses enfants. C'est d'une violence sans pareil, mais c'est une vidéo des années 80 qui était passée en grand public, qui à l'époque je pense ne choquait pas grand monde, et on voit que là 30 ans après quand même ça choque de plus en plus, un peu plus de 30 ans, ça choque de plus en plus, et en fait c'est faut continuer à en parler, et j'ai bon espoir que bientôt ça n'existera plus, et que en fait il n'y aura plus aucun policier qui se moquera de quelqu'un ou qui minimisera l'action de l'agresseur en disant non, ben, tu l'as bien cherché. Enfin, il faut que ce discours, tu l'as bien cherché, disparaisse. Mais on a espoir.
Il y a aussi cette idée que les hommes sont un petit peu incontrôlables sur leur sexualité. Ouais. Donc on valorise beaucoup le fait qu'ils aient de multiples relations, de multiples partenaires. Et au contraire, on shame les filles qui en font autant. Et du coup, ça rend aussi difficile le fait d'être pris au sérieux, parce que c'est bien les garçons, quoi.
Une espèce de pulsion irrépressible, comme si on était fondamentalement différents, et que c'est ça, les hommes pouvaient pas s'en empêcher. Ça n'a pas de sens, hein. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment socialement construit.
Tu nous confirmes que les filles aiment le sexe, docteur?
Je confirme que les filles aiment le sexe aussi.
Merci Ella pour ta question.
De rien.
Et pour tes réponses.
Ouais.
Et
pour ce témoignage. Merci pour tout ce que t'as dit.
Tu étais...
Merci à vous de m'avoir proposé de participer à ce témoignage.
Oh, tu es l'invitée la plus chou de Coucou le cul à ce jour.
Et si tu as d'autres questions, tu as gagné. Et si tu as d'autres questions plus tard, s'il y a d'autres choses qui te viennent, n'hésite pas à rappeler. Ce sera un plaisir de discuter avec
toi.
Oui.
D'accord, merci.
À bientôt.
Salut.
À bientôt.
Merci.
Salut.
Là. Sans transition, sans chemise et sans pantalon, je vous propose d'enchaîner avec une deuxième question qui nous vient de Mionette. Bonjour Mionette.
Bonjour Camille.
Tu as quel âge? Tu nous appelles d'où?
J'ai 17 ans et j'appelle d'Orléans.
Alors tu avais une question pour notre doc Berlingo.
Alors en fait, quand j'ai commencé à avoir des rapports sexuels, le problème majeur qui se posait, c'était une absence presque totale de plaisir, notamment au moment de la pénétration. Mmh. Et aujourd'hui, à cela s'est rajouté d'importantes douleurs, comme si je revivais ma première fois lors de chaque rapport sexuel. Alors il faut noter que malgré tout ça, j'ai vraiment une pleine confiance en mon partenaire et qu'à chaque fois que nous entreprenons l'acte, bah, j'en ai vraiment envie. Est-ce que vous auriez éventuellement une explication à ces phénomènes? Mmh.
Juste, ça fait combien de temps que vous avez commencé les rapports sexuels?
Ça doit faire 4 mois, je dirais.
Ouais, c'est très récent quand même, hein, tout ça. Alors, de manière un petit peu générale, hein, je pense que dans le sales, quand on débute, tu avais eu d'autres rapports sexuels avec d'autres personnes avant?
Non.
Non, c'est la première fois tout court, ouais. Quoi. Tu n'avais pas expérimenté autre chose avec d'autres personnes?
Non,
d'accord. Je pense que c'est important de se laisser le temps. C'est pas tellement en termes d'âge, mais c'est vrai que vous avez commencé il y a 4 mois, c'est quelque chose qui est récent. La douleur lors de la première fois, c'est quelque chose qui est fréquent, qu'il y a beaucoup de filles qui expérimentent, qui est multifactoriel, hein, qui est lié au fait... un petit peu à la déchirure de l'hymen, beaucoup à la contraction lors des rapports, du fait de l'angoisse que peuvent générer des premiers rapports. Il y a quelque chose qui est très positif quand même dans ce que tu dis, c'est que tu as confiance dans ton partenaire.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et que tu as l'air plutôt à l'aise avec lui, si j'ai bien compris.
Oui.
Ouais. Et du coup, tu as pu lui en parler de ses douleurs?
Oui, on en parle. Et il s'inquiète lui aussi.
Il s'inquiète. C'est au moment de l'intromission que tu as mal?
C'est quoi l'intromission?
L'intromission, c'est...
Ça a l'air bien.
C'est au moment où débute le rapport sexuel. C'est vraiment la douleur, enfin, quand le pénis rentre dans le vagin, est-ce que c'est à l'extérieur que t'as mal au moment où ça rentre?
Bah, en fait, ça dépend. Profond? Des fois, oui, c'est le cas. Et des fois, c'est assez neutre et la douleur commence après, en fait.
Ouais.
Donc, c'est un peu bizarre.
Pour répondre, enfin pour informer un petit peu tout le monde aussi, hein, il y a plusieurs types de douleurs pendant les rapports. Il y a quelque chose qui est très fréquent au moment de ce qu'on appelle l'intromission, au moment où le pénis rentre dans le vagin, c'est le manque de lubrification. Et ça concerne tout le monde, hein, quel que soit son âge. Après, ça dépend un peu de la contraception ou pas, du moment de ta vie sexuelle, du moment de ton cycle, etc. Mais ça concerne beaucoup de gens. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à mettre du lubrifiant. On en trouve très facilement en pharmacie et même dans les grandes surfaces. Du lubrifiant qui est compatible avec le préservatif, si vous prenez des préservatifs. Mais ça, il ne faut pas hésiter parce que ça manque souvent la lubrification naturelle. Et ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que pas de désir, ça veut pas dire que t'as pas envie, c'est juste qu'on mouille pas de la même manière tout le temps. Ça, je pense que c'est déjà un truc qui est important à dire. Ensuite, pour les douleurs qui peuvent être plus profondes, clairement, je pense que c'est le genre de choses qu'il faudrait éventuellement discuter en consultation avec un gynéco, une sage-femme, un médecin généraliste qui puisse t'examiner. Il y a plusieurs raison possible, enfin la plus fréquente et surtout au début des rapports sexuels, c'est juste de la contraction, on va dire, un petit peu, et le temps que ton corps s'habitue à avoir des rapports. Mais après, il y a aussi d'autres pathologies qui sont possibles, qui existent.
Moi, je cherche une formulation fleurie à la question que je me pose, mais est-ce que ça peut être aussi que c'est trop fort, quoi, trop violent ou trop rapide, trop profond, trop picot. Ou est-ce que justement vous y allez tout doucement parce que vous savez que...
Non, on est assez prudent, enfin on fait attention justement parce qu'on sait que ça peut être douloureux et du coup, enfin j'ai pas du tout l'impression qu'on y aille. Mais,
du coup, t'as
brûlé juste... ou quoi que ce soit.
Mais t'as des douleurs que pendant les rapports ou en dehors aussi parfois? Ou c'est vraiment que au moment du rapport?
Non, c'est vraiment au moment du rapport.
Et j'imagine que la difficulté à prendre du plaisir, elle vient se lier à cette question-là.
Bah oui, c'est sûr. Enfin, des fois, la plupart du temps, ça fait tellement mal que bah, du coup, on est obligé d'arrêter. Et...
Ouais. Et est-ce que, une question subsidiaire, est-ce que tu te masturbes?
Bah, j'ai essayé et en fait, le truc, c'est que j'ai aucun plaisir à le faire. Et enfin, j'arrive pas à trouver les zones érogènes, etc. Enfin, j'arrive pas.
Alors c'est pas grave, hein, te mets pas la pression là, j'ai l'impression que ne t'angoisse pas parce que t'y arrives pas, hein, c'est normal. Il faut du temps pour se découvrir, il faut du temps pour se connaître, pour se connaître soi-même et se connaître à deux. Et c'est vrai que ce que tu décris, c'est peut-être juste une méconnaissance pour l'instant aussi de ton anatomie et de ce qui peut te faire plaisir, notamment là on parle beaucoup de pénétration, mais ce qui fait le plus plaisir quand même aux femmes, c'est le clitoris. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à jouir juste avec la pénétration vaginale, donc je ne sais pas si vous prenez assez de temps pour des préliminaires, ce qu'on appelle des préliminaires, mais qui font juste complètement partie de l'acte sexuel.
Ça peut être au début, à la fin, au milieu.
Voilà, au milieu, pendant, après. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, quand tu, vous, c'est des choses que vous faites à deux?
Oui, ben vraiment. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on prend le temps de le faire. On essaie vraiment de faire les choses bien. C'est pour ça que je comprends pas en fait d'où ça vient. Parce que j'en ai à la fois très envie, on prend le temps sur tout ce qui est préliminaire, etc. Mmh. Et pourtant, il y a cette absence de plaisir au moment de la pénétration, en fait. Si c'est juste en masturbant, ça marche pas non plus.
Et le reste, alors pas en te masturbant, mais avec lui, ça te fait plaisir? Quand s'il met des doigts, s'il te fait un cunnilingus, ça te fait plaisir, ça?
En général, oui. Des fois, c'est assez neutre, en fait. Mais sinon, ça va.
Ouais. Moi, je pense que c'est quand même, enfin, ce que tu décris, hein, ça m'a l'air quand même d'être une histoire de temps et de continuer, enfin, d'essayer de te connaître, de prendre le temps dans votre relation, de vous connaître ensemble. Et te connaître, je vais le répéter, hein, mais je pense que ça passe vraiment par la masturbation. Je pense que c'est vraiment important. Mm-hmm. Et y a plein de choses à essayer. Enfin, petit type de masturbation, petit aparté, c'est vraiment un moment où tu peux être toute seule et où il n'y a absolument personne qui te juge. Tu peux avoir tous les fantasmes que tu veux, tu peux tout imaginer, tu peux utiliser tes doigts, des objets. Il n'y a vraiment pas de limite, je pense, à avoir, et pas non plus d'idée de performance à avoir. On se met beaucoup en tête que l'acte sexuel doit amener à un orgasme avec un grand O, c'est une espèce de feu d'artifice absolument fou. C'est quelque chose qui vient souvent plus tard, avec le temps. Il y a plein de femmes qui décrivent qu'elles n'ont jamais connu d'orgasme avant 30 ans. Donc tu vois, t'as 17 ans, ça fait 4 mois que t'as commencé les rapports.
Ouais, la vie est longue. Hein.
Ouais. Et la vie est longue, les partenaires peuvent être nombreux.
C'est vrai.
Et je dis pas que c'est la faute de ton partenaire, hein, je dis pas du tout ça, mais tout au long de ta vie, tu auras des expériences qui sont différentes. Et je pense que l'idée de pas se mettre de pression et de découvrir au fur et à mesure, de voir un petit peu ce qui te plaît, ce qui te plaît moins, d'utiliser d'autres choses que le pénis, la pénétration, si ça te fait mal pour l'instant, peut-être que ça te fait mal maintenant. Et en fait, à partir du moment où tu auras plus l'habitude de mettre des choses dans ton vagin aussi, ça t'aura moins mal parce que tu détendras plus au moment où tu le fais, et puis parce qu'il y a quand même un truc où le corps s'habitue un petit peu plus.
Donc il y a un temps d'adaptation. Bah, faut pas paniquer si c'est pas parfait tout de suite. La vie est longue, il y a une marge de progression considérable. Après, effectivement, ouais, un rendez-vous chez le gynéco pour te
rassurer. Pourquoi pas ? Ça serait bon pour te rassurer, je pense, parce que ce que tu me décris, enfin, ça me, c'est pas du. C'est, en fait, quand tu, c'est tout à l'heure, tu disais où vraiment les douleurs étaient très 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 intenses. Et enfin, je veux dire, si tu pleures pendant un rapport, va voir un gynéco. Enfin, fais-toi examiner. Juste pour te rassurer et te dire que tout va bien, mais je pense vraiment que à 4 mois de rapport sexuel, c'est pas du tout pathologique ou c'est pas du tout bizarre de ne pas prendre encore vraiment du plaisir. Mmh. Après, voilà, faut juste, je pense, différencier la douleur qui serait une douleur vraiment que t'as du mal à supporter et qui t'handicape beaucoup, avec juste entre guillemets l'absence de plaisir, parce que le plaisir, ça vient vraiment avec le temps, avec l'expérience.
Avec la connaissance de soi, ouais, de soi-même. Et c'est vrai que la masturbation, pour ça, ça peut aider, en fait, quand on est à deux, parce que se connaître soi-même est important pour kiffer à deux, voire indispensable.
Parce que tu sais, il y a des filles qui jouiront jamais avec une pénétration vaginale. Hein. Clairement. Hein. Alors, y a, encore une fois, il y a une différence entre ne pas ressentir de plaisir et avoir vraiment très mal. Ça, il faut faire la différence entre les deux, mais la pénétration, c'est pas un, je sais pas, une espèce de baguette magique qui rentre en toi et 5 minutes après tu jouis.
C'est tellement pas. C'est ce que le porno nous montre souvent.
Ouais, mais c'est pas ça, la sexualité.
Est-ce que c'est quelque chose que tu vas envisager, du coup, de prendre rendez-vous chez un gynéco?
Oui, oui, bah oui, bien sûr. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'était plutôt compliqué, même moi, de me l'admettre. Et du coup, c'est aussi pour ça que cet appel m'aide, en fait. Parce que d'en parler à quelqu'un d'autre qu'à mon copain, c'est le premier pas, en fait, pour moi, avant d'aller chez le gynéco, réellement.
Bah, avec plaisir. Est-ce que tu peux pas du tout en parler avec tes parents ou...
Bah, en fait, ils sont assez ouverts, enfin, sur la question, surtout ma mère, mais c'est plutôt moi, en fait, qui met des barrières que je devrais pas, je sais bien, mais... Enfin, ça me gêne un petit peu, donc...
Mais c'est ton droit, hein. T'as le droit d'être gêné, et c'est beaucoup plus facile d'en parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, effectivement, et d'où voir un gynéco ou un médecin, une sage-femme, c'est bien d'en parler aussi avec quelqu'un qui est neutre et qui n'est pas dans ta vie, qui ne te jugera pas, même si probablement tes proches ne te jugeront pas, c'est toujours plus facile d'en parler à quelqu'un d'extérieur, je pense. Camille, je ne sais pas ce que tu en penses.
Bah, je confirme. Je parle moi-même très peu de sexe avec ma mère, avec mes parents. Mes parents sont très gênés par mes articles en général et mes vidéos. Et oui, sur l'absence de... Si on enlève le problème de la douleur, qui sont venus dans un second temps, l'absence de plaisir, oui, c'est lié au fait que c'est tout nouveau, quoi, et que, en fait, c'est normal si tu sais pas trop comment ça marche. Lui aussi, il est débutant, j'imagine.
Oui.
Et oui, il faut bien commencer quelque part.
Ouais.
Voilà.
Mais déjà, si vous arrivez à en parler, d'arriver à nous appeler, à en parler tous les deux, je pense que c'est super. Enfin, tu m'as l'air de bien communiquer avec lui et c'est vachement bien. Parce qu'il n'y a plus en parlant et en faisant des choses, en testant des choses, que vous allez voir un peu ce qui vous convient ou pas. Et que vous allez pouvoir avancer ensemble vers le chemin lumineux de la sexualité.
Ah, oh, c'est beau. J'ai vu des chiffres, en tout cas, sur les femmes, les douleurs pendant le rapport pour les femmes, et c'est vraiment énorme. En fait, c'était une étude qui demandait aux hommes quel était le critère pour un rapport sexuel réussi, et en gros, c'était avoir un orgasme ou prendre du plaisir ou je sais plus, un truc comme ça. Et les femmes, un rapport était réussi quand elles avaient pas mal, en fait, pour la majorité des sondés. Donc la douleur pendant le sexe est vraiment un problème répandu pour les nanas. Et je pense que c'est bien aussi de savoir que c'est entre guillemets pas normal, pas en tout cas indispensable d'avoir mal. Ouais. Qu'on a le droit de dire qu'on a mal, quoi. Mmh. Et que.
Ouais, on a le droit de dire qu'on a mal. Et que,
c'est pas obligatoire, en fait, d'avoir mal, voilà.
Effectivement, on a le droit de dire qu'on a mal, on a le droit de pas avoir envie d'avoir mal. Et voilà, pour les trucs un peu généraux, je pense que déjà la lubrification, c'est super important. Prendre le temps, c'est super important. Faire plein d'autres choses que la pénétration, c'est super important, parce que, encore une fois, la pénétration vaginale, c'est vraiment pas le meilleur moyen d'avoir du plaisir sexuel et un orgasme à la fin. Je vais répéter, mais ne pas se mettre trop de pression avec l'idée qu'on se fait d'avoir un orgasme et jouir, c'est pareil, ça vient au fur et à mesure, et
ça ne vient pas avec la pression en tout cas.
Et ça vient pas avec la
je
pression.
Je confirme. Est-ce qu'il y a des positions pendant la pénétration qui te font plus mal que d'autres? Est-ce que tu arrives à jouer là-dessus?
Non, globalement, j'ai toujours mal.
Ok. Et vous avez essayé plusieurs positions?
Oui. Bah, y a la basique, la missionnaire. Ensuite, ouais. On a essayé un andromaque. Et puis, on a essayé la levrette aussi. Ouais. Mais...
Andromaque et levrette, c'est quand même des positions de pénétration très profondes.
Ouais.
Donc, ce qui peut se passer, c'est que ça vient taper dans ton col de l'utérus, ça vient taper dans le fond, comme on dit. Je ne sais pas où on dit ça. Au Québec, apparemment. Et ouais,
c'est vrai.
C'est peut-être pas l'idéal, en fait.
Non, vous n'êtes pas obligé de faire des positions très originales ou... Enfin voilà, si vous avez envie d'expérimenter la levrette, évidemment faites-le, mais c'est effectivement une position qui est une position plutôt profonde et qui peut faire beaucoup plus mal que un missionnaire classique ou
la cuillère.
Ou la cuillère, ouais. La cuillère, c'est vachement bien.
Go for the cuillère.
Tu vois ce que c'est la cuillère?
Non.
Tu sais, quand tu te... Bah, comment on va expliquer ça? Les limites du podcast.
On pourrait te le mimer.
Je te le fais, là, tu vois. Non, en gros, c'est quand t'es allongé sur le côté et que le mec est allongé sur le côté derrière toi.
Ouais.
Tu sais, comme quand tu pourrais dormir... On dit qu'on peut dormir en cuillère, on peut se câliner en cuillère, tu vois. Juste, c'est le fait de s'emboîter comme deux cuillères.
D'accord.
Tu vois?
Oui, je vois.
En tout cas, on a envie d'avoir de tes nouvelles maintenant, Lunette. Il faudra nous rappeler.
Est-ce que ça te rassure un petit peu?
Oui, si, ça me rassure forcément. Puis, je trouve que ça fait du bien d'en parler.
Bon, bah super.
En tout cas, voilà, n'hésite pas à consulter quelqu'un et tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez un doute sur vous, votre anatomie, votre sexualité, vous dites « Ah, mais il y a un truc qui n'est pas normal chez moi, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça », n'hésitez pas à aller voir quelqu'un d'extérieur qui vous examinera avec un point de vue extérieur et qui, dans 99% des cas, vous rassurera et vous dira que en fait, vous êtes tout à fait normal et ce que vous expérimentez, c'est tout à fait normal. C'est fréquent et c'est normal, encore une fois, de ne pas savoir comment sont les autres parce que, comme tu le dis, tu as du mal à en parler autour de toi. Et de fait, quand on n'en parle pas autour de soi et qu'on n'entend pas d'autres sons de cloche, bah, tout ce qu'on voit, c'est des sexualités hyper épanouies, c'est du porno, ou même dans les séries, sans parler de porno, on a l'impression qu'on fait l'amour et qu'on jouit. Bah, non, c'est pas du tout le cas. Et c'est le cas. Pour personne, on a tous une histoire et il y a un chemin de vie.
Sinon, ce podcast n'existerait pas. Mais oui, on peut le dire ça aussi, que le sexe, c'est pas instinctif, quoi.
Non.
Et que ça s'apprend, que ça marche pas tout seul, en fait. Il faut du temps, ça se travaille. Merci, Lunette, pour cette question.
Merci beaucoup.
On espère que ça t'a aidé. On te souhaite plein de bonheur dans la suite de tes expérimentations. Gros bisous, chaton.
Au revoir.
À bientôt.
À bientôt.
Oh là là, il y a trop d'émotions dans ce premier podcast de Coucou le cul. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce premier podcast. Merci à vous de l'avoir écouté. C'était un plaisir. Merci, docteur Berlingot.
Merci à toi, Camille.
Pour ces éclairages éclairés. Écoutez, voilà. C'est pas comme si mon métier était de faire des jolies phrases. Si tu souhaites passer dans l'émission, si tu souhaites venir nous faire un coucou dans Coucou le cul et poser ta question, eh bien, à la bonne heure, il suffit d'envoyer un mail à queencamille@mademoiselle.com. Un mail que vous retrouverez pour l'écrire correctement dans les notes du podcast. N'hésite pas à t'abonner au podcast Mademoiselle sur ton appli de podcast, ou sur Deezer, ou sur Spotify. Et si tu as aimé ce premier numéro de Coucou le cul, eh bien, tu peux nous le dire, laisser ton avis sur iTunes, et pourquoi pas 5 étoiles ? Écoute, ça ne mange pas de pain. Si vous avez envie de suivre Laura Berlingot, notre doc gynéco de luxe, vous pouvez le faire sur Twitter. C'est quoi ton hâte ?
Laura Berlingot.
Laura Berlingot, car c'est son vrai nom. Et eh oui,
santé,
c'est incroyable.
Berlingot. Et si vous voulez suivre Queen Camille, il faut la suivre sur Instagram.
Oui.
Elle poste des photos assez rigolotes et des vidéos aussi. Queen.
At Queen Camille avec un K.
Avec un K.
Tout à fait. Car l'autre option était déjà prise. Une histoire banale de pseudo Instagram. À part ça, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission de Coucou le cul, de nouvelles questions et de nouvelles réponses sur la sexualidad. D'ici là, eh bien, aimez-vous les uns les autres. Et avant tout, aimez-vous vous. Allez, bonne bourre, bye.
À bientôt.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.